VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, excellent début de journée à l'écoute de VOA Afrique, au micro Nicolas Pineau et Anne Albertson, à la une ce matin.
Barack Obama appelle à lutter contre les fausses promesses de l'extrémisme. Le président américain se défend d'être en guerre contre l'islam.
We are not at war with Islam. Al-Qaïda and ISIL and groups like it, they try to portray themselves as religious leaders. They are not religious leaders, they're terrorists.
La deuxième partie de notre émission sera largement consacrée à cette intervention du président américain. À New York, les pays arabes en désaccord ne demandent pas d'intervention militaire en Libye.
À Bujumbura, le journaliste Bob Rugurika sera libre dans quelques heures.
Le journaliste Bob Rugurika doit se présenter chaque premier lundi du mois devant le magistrat instructeur. Et la libération est aussi assortie d'une condition de ne pas sortir des frontières de la République.
Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le Journal des Sports. Le MENA du Niger éliminé devant son public. Le Mali tentera de se qualifier tout à l'heure pour les demi-finales face à l'Afrique du Sud. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Suite du sommet contre la violence extrémiste ici à Washington, Barack Obama a appelé hier soir à lutter contre les fausses promesses de l'extrémisme, en particulier la propagande des groupes terroristes qui ciblent les jeunes musulmans sur Internet. Le président américain se défend d'être en guerre contre l'islam, Henri Francisque.
Barack Obama a martelé un seul message. Les djihadistes de tous bords ne représentent pas l'islam. Pire, ils le pervertissent, selon le président américain.
We are not at war with Islam.
Nous ne sommes pas en guerre contre l'islam. Al-Qaïda, État islamique et d'autres groupes sont désespérément en quête de légitimité. Ils se présentent comme des leaders religieux, de saints combattants qui défendent l'islam. Mais ils ne le sont pas. Ils sont des terroristes. Ce message a une résonance particulière après les attaques terroristes de Paris et Copenhague. Barack Obama a reconnu que les opérations militaires telles que les frappes aériennes menées depuis des mois contre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie ne peuvent être la seule réponse face à la violence extrémiste.
Given the complexities of the challenge,
étant donné la complexité des défis et la nature de l'ennemi qui n'est pas une armée traditionnelle, ce travail prend du temps et nécessite de la vigilance et de la résilience. Ce sommet de Washington prend fin ce jeudi avec notamment la participation du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon.
Le Qatar a rappelé aujourd'hui son ambassadeur en Égypte pour des consultations. Cela fait suite à un différend intervenu lors d'une réunion de la Ligue arabe, centrée sur les raids aériens égyptiens contre des positions de la branche libyenne du groupe État islamique. C'est ce qu'annonce l'agence officielle Qatari QNA.
Pendant ce temps, la Libye était en débat hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Al-Dahiri, a demandé la levée de l'embargo sur les armes imposées à son pays afin de mieux lutter contre les djihadistes. Il a en revanche écarté l'idée d'une intervention militaire internationale et c'est dans ce contexte que les pays arabes ont introduit un projet de résolution sur la crise libyenne à l'initiative du Caire. Morgane Guiriec.
L'Égypte, qui avait réclamé une intervention militaire étrangère en Libye, semble finalement se ranger aux réticences des pays occidentaux favorables à une solution politique. Le Caire a envoyé lundi ses avions bombarder des positions de la branche libyenne du groupe État islamique, mesure prise en représailles à la décapitation de 21 chrétiens coptes. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait alors estimé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de demander à l'ONU une résolution pour l'intervention militaire d'une coalition internationale. Mais les ardeurs égyptiennes se sont heurtées à des communiqués prudents des gouvernements occidentaux. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé que si le projet de résolution du groupe arabe à l'ONU demandait la levée des restrictions sur les armes pour le gouvernement libyen reconnu, il ne faisait pas mention d'une intervention étrangère.
On reste en Afrique du Nord, en Tunisie. 20 personnes accusées d'avoir participé à l'attaque de l'ambassade américaine de Tunis, c'était en septembre 2012. Elles ont été condamnées à des peines allant de 2 à 4 ans de prison. Claire Morin-Gibourg.
Le verdict de la Cour d'appel de Tunis est bien plus lourd que celui prononcé en mai 2013 en première instance où les accusés avaient été condamnés à 2 ans de prison avec sursis. Selon le porte-parole de la Cour, Karim Chebi, les 20 prévenus ont cette fois été condamnés à des peines de prison ferme pour leur participation au saccage de l'ambassade et de l'école américaine en réaction à un film islamophobe diffusé sur Internet. À l'audience de mardi, seuls 6 des accusés Français étaient présents et tous ont nié avoir participé à la manifestation et aux heurts qui s'en étaient suivis avec la police et qui s'étaient soldés par la mort de 4 manifestants. Les autorités tunisiennes et les États-Unis avaient vivement critiqué les condamnations avec sursis des 20 accusés en première instance, si bien que le parquet avait fait appel. Il aura finalement fallu près de 2 ans pour que l'audience ait lieu mardi après de multiples reports.
Les séparatistes pro-russes ont infligé un nouveau revers à Kiev en contraignant hier son armée à abandonner la ville stratégique de Debaltseve. Le président ukrainien Petro Poroshenko demande l'envoi d'une mission policière de l'Union européenne sous mandat de l'ONU pour maintenir la paix dans l'est du pays. En demandant un contingent international de maintien de la paix, le président ukrainien semble vouloir détruire les accords de Minsk, a accusé jeudi le représentant de la Russie à l'ONU, Vitali Tchurkin, cité par l'agence de presse russe RIA Novosti.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour sur le continent africain, au Burundi, c'est aujourd'hui que Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, station partenaire de VOA Afrique, doit recouvrer la liberté. Il a bénéficié hier d'une libération contre une caution de 15 millions de francs burundais, soit environ 10 000 dollars. Il avait été arrêté le 21 janvier en rapport avec la diffusion d'un entretien avec un homme se présentant comme l'un des meurtriers des 3 religieuses italiennes assassinées en septembre dernier au nord de Bujumbura. Écoutons Maître Bosco Ngendagugayo, il est l'un des avocats du journal.
Le journaliste Bob Rugurika doit se présenter chaque premier lundi du mois devant le magistrat instructeur et la libération est aussi assortie d'une condition de ne pas sortir des frontières de la République sans l'autorisation préalable du magistrat instructeur. C'est un bon développement, le droit a été dit, du moins partiellement parce qu'on aurait pu aimer qu'il soit remis en liberté sans aucune condition. Mais quand même, la mesure qu'il vient de prendre, c'est une mesure qui tend vers la justice. La Cour a fait toutes les diligences nécessaires, moyennant nos appuis, pour que la décision lui soit signifiée immédiatement. Mais le ministère public, c'est-à-dire le magistrat instructeur, n'a pas affiché la même volonté.
Maître Bosco Ngendagugayo, il était joint à Bujumbura par Timothée de Normaille.
Les États-Unis renforcent leur soutien au Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. L'ambassadeur américain à Yaoundé, Michael Stevenhauser, a confirmé hier que Washington va appuyer en matériel l'armée camerounaise pour combattre les djihadistes. Cette semaine, 5 soldats camerounais ont ainsi perdu la vie lors d'une embuscade dans la ville de Ouaza.
À Dikoua, dans le nord-est du Nigeria, l'armée tchadienne affirme que 2 de ses soldats sont morts ainsi que 117 combattants de Boko Haram. C'est ce qu'a déclaré hier soir à la télévision nationale Brahim Seyd Mahamat, le chef d'état-major général des armées tchadiennes qui s'est rendu mercredi à Dikoua.
Les États-Unis se félicitent que l'élection présidentielle en République démocratique du Congo ait été fixée à novembre 2016. Dans un communiqué, le département d'État a salué la publication du calendrier électoral par la CENI. Washington réclame depuis des mois le respect de la Constitution, ce qui priverait en l'état Joseph Kabila de se représenter pour un 3e mandat.
On reste à Kinshasa où la mission onusienne dans le pays prend acte de la décision du président Kabila de se passer de son appui militaire lors des opérations de désarmement des FDLR. Écoutons Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO.
Nous prenons acte de ce que le président a dit. Nous saluons d'ailleurs cet engagement ferme du président à mener ces opérations contre les FDLR. Vous savez que la question des FDLR est une question qui interpelle non seulement la RDC, mais la communauté internationale, les pays de la sous-région et aussi la MONUSCO. La résolution 2147 nous donnait ce mandat de neutraliser les groupes armés dans l'est de la RDC. Nous avions voulu, et c'était notre souhait, faire cette opération conjointe. Mais pour l'instant, voilà la situation qui se présente à nous. Nous prenons acte donc de ce que le président a dit et nous espérons qu'au cours des nombreuses discussions que nous menons à l'heure actuelle et qui sont vraiment nombreuses, on n'a jamais vraiment interrompu les contacts entre membres du gouvernement et puis hiérarchie de la MONUSCO. Nous espérons que les positions des uns et des autres vont avancer, vont évoluer pour que l'on puisse vraiment mener ensemble ces opérations.
Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO.
Michel Gbagbo, fils de l'ex-président Laurent Gbagbo, a nié hier avoir joué un rôle quelconque dans la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Il est accusé, ainsi que l'ex-première dame Simone Gbagbo, d'atteinte à la sûreté de l'État.
C'est dans ce contexte qu'à Abidjan, le gouvernement ivoirien va se doter d'une loi antiterroriste. Ce projet vise principalement à se prémunir contre la prolifération des groupes terroristes dans la sous-région tels que ACMI ou Boko Haram. Le projet de loi sera prochainement débattu à l'Assemblée nationale.
Revers pour les rebelles sud-soudanais. Leur porte-parole militaire a fait défection, se disant préoccupé par la direction du mouvement. Les précisions de Lionel Gaïma.
En annonçant hier à Nairobi la mise sur pied d'un groupe appelé Mouvement et Armée de Résistance du Soudan du Sud, le général Lul Ruai Koang a fait savoir qu'il rompait tout lien avec le leader de la rébellion sud-soudanaise, l'ancien vice-président Riek Machar. La déclaration que nous faisons aujourd'hui est que nous ne voulons plus nous battre pour une organisation qui veut continuer de combattre tout simplement parce qu'un homme à la tête veut diriger le pays par la force. Ex-porte-parole militaire et membre de la délégation rebelle au pourparlers de paix à Addis Abeba, le général Koang s'est dit persuadé que 75% de l'opposition est avec lui. Et bien que sa conférence de presse ait été organisée par l'ambassade du Soudan du Sud au Kenya, il a démenti avoir rejoint le camp gouvernemental, affirmant plutôt que son mouvement a déclaré un cessez-le-feu et attend la réponse du gouvernement.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, le monde. Aujourd'hui, nous retrouvons Nathalie Barge pour la Minute Éco.
Des milliers de personnes ont manifesté hier à Accra contre les coupures d'électricité au Ghana, rapporte l'AFP. Les délestages affectent plusieurs secteurs d'activité, dont celui du pétrole qui produit environ 100 000 barils par jour. Les manifestations vont continuer, a dit l'ex-ministre des Affaires étrangères à Kwasi Osei-Adjei, critique du gouvernement qu'il juge composé de gens incompétents. Grande déception des jeunes de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, qui espérait être embauché au grand chantier du barrage Samandeni, alors que le président de transition, Michel Kafando, visite des infrastructures économiques jusqu'à la fin de la semaine. La mise en eau du troisième plus grand barrage du pays devait se faire cette année, indique l'agence de presse africaine. La réaction de Maurice Illa, restaurateur à Bobo Dioulasso.
Concernant les barrages de Samandeni, vraiment, les jeunes burkinabés attendaient beaucoup plus, parce que les jeunes de 17 ans, à 25 ans, on voulait même aller travailler là-bas. Chacun se disait que c'était une opportunité pour avoir quelque chose pendant quelques années.
Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain John Kerry félicite le Rwanda pour le lancement d'une installation solaire par Gigawatt Global. C'est la première réalisation solaire dans le cadre du programme américain Africa Clean Energy Finance. La capacité de production d'électricité augmente ainsi de plus de 6%, permettant d'alimenter 15 000 foyers. Peu coûteuse, l'énergie renouvelable est une solution parfaitement adaptée aux besoins actuels, souligne M. Kerry.
Place au sport. À présent, dans cette émission, nous retrouvons Bagassi Koua. Bagassi, bonjour.
Bonjour Nicolas.
On commence par du cyclisme, la troisième étape de la tropicale Amissa Bongo au Gabon.
Oui, c'est l'équipe française Bretagne Séchée qui a réussi un doublé ce mercredi lors de cette troisième étape de la tropicale Amissa Bongo. La Britannique Danielle Maclay l'emportant au sprint devant son coéquipier biélorusse Yoheni Houtarovich et le Marocain Salahedine Mourouaouni. Le Tunisien Rafa Chichoui de Skydive, arrivé dans le peloton, conserve la tête du classement général devant le Français Giovanni Bernardo et l'Algérien Abdelkader Belmoukhtar.
En football, un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se déroule au Niger.
Oui, dans le groupe A, les Nigériens à domicile ont perdu face à la Zambie 2-1 et le Nigeria a fait match nul avec la Guinée, 1-0.
À suivre tout à l'heure, à Niamey, les rencontres du groupe B, le Mali en tête jouera contre l'Afrique du Sud et le beau duel entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire.
Nicolas, on a joué hier soir en Europe pour la suite de la huitième de finale aller de la Ligue des Champions.
Oui, Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin du but pour guider le Real de Madrid à la victoire face à Schalke 04, 2-0. Et à l'issue d'une rencontre qu'il a totalement dominée, le FC Porto, grâce à un pénalty de Danilo en seconde période, les Portugais ont ramené de balle un match nul un partout qui leur donne un avantage en vue de la qualification pour les quarts de finale. Coup de chapeau ce matin à Isabelle Sambou qui a été désignée par l'Union mondiale de lutte, lutteuse africaine de la décennie.
La championne sénégalaise est honorée pour une décennie de règne sans partage sur la discipline, autant au Sénégal que sur le continent. Et selon le site Afrique Info qui rapporte l'information, c'est le 21 février prochain qu'elle recevra officiellement sa distinction au cours d'une cérémonie honorifique qu'elle organisera en Casamance. Isabelle Sambou, il faut le dire, est championne du monde de biche au wrestling. Elle a également 8 titres de championne d'Afrique, une 5e place au JO de Londres en 2012 et elle trône au sommet de la lutte sénégalaise depuis une décennie.
C'était le journal des sports avec Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. En ce jeudi matin, nous vous en avons parlé dans le journal. Discours majeur prononcé hier à Washington par Barack Obama. Le président américain s'exprimait au deuxième jour du sommet contre la violence extrémiste. Depuis la Maison-Blanche, M. Obama s'est placé sur le plan des idées pour combattre les fausses promesses des groupes terroristes qui ciblent les jeunes musulmans sur Internet. Pour une première réaction ce matin, j'ai joint le docteur Walid Fares pour se conseiller en contre-terrorisme auprès du Congrès américain. Le discours de Barack Obama devait répondre aux idéologies des groupes extrémistes.
C'est un discours obligé, comme on l'appelle ici, donc un discours qui a été attendu, un discours qui va tracer le débat à venir sur la question de ce qu'on appelle la guerre des idées, la guerre idéologique, mais surtout et au-delà du discours, il y a la question de la formation de la plus grande coalition, alliance possible entre toutes les forces du monde qui prônent la liberté, la démocratie, le pluralisme, mais aussi il y a aussi la question des sociétés civiles qui doivent être appuyées par tous les moyens politiques, économiques et sociaux.
Quand le président Obama estime que cela va prendre du temps pour combattre ces idéologies, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance ?
C'est un aveu d'impuissance, mais c'est le système qui est un peu responsable de cette crise. Nous sommes à la 14e année après le 11 septembre. Nous sommes, comme États-Unis, intervenus en Afghanistan, en Irak. Nous sommes revenus maintenant avec une coalition contre l'État islamique. C'est un peu la responsabilité de la communauté internationale, mais certainement les États-Unis ont une responsabilité tout à fait spéciale parce que l'Amérique, comme on le sait, a joué et joue encore un jeu très important dans le leadership de la campagne. Ayant dit cela, le président Obama, bien sûr, sait très bien que c'est une lutte qui va prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas une question de mois ou d'années.
Le président Obama a été critiqué par certains républicains pour ne pas avoir intitulé ce sommet « Sommet contre la violence islamiste ». Qu'en pensez-vous ?
Mais écoutez, il y a ce débat à Washington, on le connaît très bien, ce n'est plus secret. Il y a le camp du président Obama qui prône la neutralité linguistique, alors que le camp adverse, et dans lequel il y a pas seulement des républicains, mais aussi des libéraux et des démocrates, vont promouvoir l'idée que si on n'identifie pas l'idéologie par son nom, par ses valeurs et par ses principes, on ne pourra pas concevoir une stratégie pour la contrer. Et donc les deux camps ont une logique différente. L'opinion publique américaine, elle, ce qu'elle veut, c'est des résultats sur le terrain.
Le docteur Walid Fares, conseiller en contre-terrorisme auprès du Congrès américain. Autre avis ce matin sur VOA Afrique, celui de Nasser Ouedadi, ancien membre du Conseil islamique américain. Cet analyste politique mauritanien estime que Barack Obama s'est trompé d'approche et que son discours ne répond pas à la menace concrète des djihadistes. Écoutons Nasser Ouedadi.
Je ne suis pas convaincu non pas parce que je trouve qu'il est en train de débattre la mauvaise problématique. Il ne s'agit pas de savoir si l'Occident est en guerre avec l'islam ou il faudrait plutôt identifier et isoler le fait que l'intégrisme islamiste vient même du cœur du monde islamique. Globalement, les carences du discours du président Obama sont fondamentalement liées à une crise profonde qui mène l'Occident. On est en train de se chercher, on est dans une phase de réflexion où l'on n'est plus confortable avec le multiculturalisme et on n'arrive pas trop à desserrer avec les outils de pensée très postmodernes, on n'arrive pas à décerner le danger qu'une force prémoderne comme Daesh est en train de poser au monde libre. Et la réalité est justement là. C'est carrément que la modernité et le passé.
Quelles seraient les solutions ?
Personnellement, je pense que le président devrait plutôt se concentrer sur la création d'une stratégie crédible pour gagner militairement contre Daesh. Tout a été déjà dit. Il me semble que tout dernièrement, les leaders occidentaux ont développé une attitude assez fâcheuse avec leur sollicitude de devoir se placer comme les défenseurs de l'islam. On n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est des idées claires, des plans clairs et une stratégie claire pour détruire Daesh et empêcher son expansion, et surtout pour trouver des solutions réalistes au problème.
Barack Obama a mis l'accent sur la nécessité de faire appel aux leaders religieux et aux communautés, notamment dans les relations avec la police. On sait souvent qu'ici aux États-Unis, il y a beaucoup de méfiance, notamment de surveillance. Qu'est-ce que vous pensez de ce point particulier du discours du président américain ?
Il y a une partie positive du discours du président que je trouve plutôt bonne et la bienvenue. On est dans un contexte où les tensions sont fortes, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, ou en particulier en Occident. Il est bien que quelqu'un vienne pour essayer de faire baisser ces tensions. Par rapport à la recommandation du président de travailler avec, à travers les leaders religieux, je pense que encore c'est une conception naïve du problème. On l'a vu, une bonne partie des jeunes radicalisés ne sont pas passés par cette case-là de la mosquée locale. Ils ont trouvé les prêches qui l'ont radicalisé ailleurs. Et cette conception du problème est assez arriérée. On est encore en train d'évoluer dans le discours du post-11 septembre immédiat. Il me semble que le président a raté un épisode durant la décennie écoulée.
Nasser Ouedadi, analyste politique, il était joint à Boston. Retrouvez ses analyses et plus encore sur notre site internet voafrique.com.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur le film africain Timbuktu en lice pour les Oscars 2015. Des artistes comme la chanteuse Angélique Kidjo et le réalisateur Abderrahmane Sissako sont internationalement reconnus. Et la question de la semaine, les artistes africains ont-ils un rôle à jouer dans l'essor et la stabilité du continent? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum ce jeudi. À 19h30.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies discute de la crise libyenne pendant que l'État islamique accroît son emprise sur le sol libyen. Dimanche dernier, rappelez-vous, les djihadistes ont publié une vidéo montrant la décapitation de 21 coptes égyptiens. Le Caire a répondu par des frappes aériennes et veut une intervention militaire. Oui, mais voilà, les autres pays arabes ne sont pas de cet avis. Michel Joseph.
Les Libyens ont célébré cette semaine l'anniversaire de la révolution qui a renversé Muammar Kadhafi. Tripoli, dans un rare moment d'unité, affichait partout les drapeaux libyens noirs, verts et rouges. Mais ce n'est que la façade qui cache mal tout le chaos régnant dans le pays. La décapitation des 21 chrétiens égyptiens par le groupe État islamique fait craindre le pire, selon Mattia Toaldo du Conseil européen aux affaires étrangères.
Il y a un ensemble de djihadistes libyens qui ont combattu en Afghanistan, en Syrie et qui sont maintenant de retour en Libye. Il y a d'autres organisations terroristes qui ont une alliance ouverte avec certaines factions comme Ansar al-Sharia et des combattants d'Ansar al-Sharia. Al-Sharia ont déjà fait allégeance à l'État islamique.
De l'autre côté de la Méditerranée, l'Italie parle d'action militaire. Face à la détérioration de la situation en Libye, la communauté internationale doit agir avant qu'il ne soit trop tard, d'autant que l'État islamique se vante même d'avoir comme ambition de conquérir Rome, a averti le ministre italien des Affaires étrangères. Paolo Gentiloni appelle à un effort collectif global. La menace terroriste venant de la Libye est perçue comme un test pour l'Europe par rapport à la sécurisation de ses frontières.
L'Union européenne a présenté un plan avec des sanctions individuelles, le potentiel d'une mission de maintien de la paix pour essayer de préserver l'indépendance des institutions économiques libyennes vis-à-vis des différentes factions belligérantes qui veulent prendre tout l'argent et le pétrole.
Bien sûr, beaucoup craignent que l'État islamique ambitionne de faire main basse sur les richesses pétrolières libyennes pour financer son réseau de terreur. John Hamilton est un spécialiste de la Libye.
Je ne pense pas qu'il leur soit possible de le faire maintenant, mais la peur qu'ils puissent le faire est un cauchemar que l'État islamique veut bien alimenter.
L'Égypte a mené des frappes aériennes en représailles après le massacre des 21 coptes par les djihadistes. Et les seules frappes aériennes ne suffiront pas pour bouter l'État islamique hors de Libye. Et c'est là le dilemme des Occidentaux, évaluer le risque d'une intervention étrangère face au danger d'un État en faillite au pied de l'Europe.
En République démocratique du Congo, l'opposition a décidé d'attaquer en justice les opérateurs de téléphonie mobile suite à la désactivation des numéros de téléphone de ses leaders depuis le 20 janvier dernier. Elle accuse indirectement le gouvernement qui dément toute implication. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Il s'agit des leaders de l'opposition qui ont appelé à manifester le 19 janvier dernier contre la nouvelle loi électorale alors en discussion à l'Assemblée nationale. Ces opposants affirment que depuis, leurs principaux numéros de téléphone ont été bouchés. Ils ont donc décidé un mois après de porter l'affaire devant la justice. Le député national Jean-Claude Mwemba est le vice-président du groupe parlementaire UDPC Allié.
Nous avons consulté les services
Airtel, Vodacom, Tigo, Orange, ils ont reçu une correspondance d'un responsable en date du 20 janvier pour qu'ils puissent boucher tout le numéro des opposants que nous sommes. Et alors, à partir de ce moment, ils ont laissé le message. C'est pour cela, pour que la culture de la démocratie puisse pénétrer dans ce pays, nous, responsables de l'opposition qui ont été bouchés à travers nos téléphones à la date du 20 janvier, nous avons porté plainte contre tous les opérateurs de télécommunications, ainsi que nous allons voir comment nous pouvons aussi porter plainte contre le responsable qui a demandé qu'on puisse boucher nos numéros.
En réaction, le porte-parole du gouvernement rejette ces accusations. Selon Lambert Mende Omalanga, aucun numéro n'a été bouché sur décision gouvernementale. L'heure est plutôt à l'appel à l'identification de tous les usagers des téléphones mobiles, selon le ministre des Médias.
Les numéros de l'opposition qui auraient été bouchés, il n'y a encore aucune mesure de bouchage qui est en cours jusqu'au moment où nous parlons, parce que le gouvernement, au moment où je parlais, appelait le public congolais, pas l'opposition. Est-ce qu'il n'y a que l'opposition qui a des téléphones dans ce pays ? Appelez le public congolais. Passé 15 jours, on va boucher tous ceux qui ne se seront pas fait identifier. Identifier les gens, c'est quand même un devoir élémentaire pour un État. Parce que ça fait 5 ans que nous disons cela, il y a toujours des rescueurs. Maintenant, on a dit, on va le faire. Passer ce délai, on va commencer à boucher. Donc, quand quelqu'un de l'opposition dit qu'on l'a bouché à cause des événements, ce n'est pas vrai. Parce qu'on n'a pas commencé.
Les opérateurs de téléphonie mobile, eux, ne se sont pas encore exprimés sur le sujet. Plus préoccupés par le blackout partiel d'Internet depuis un mois, ils en réclament le rétablissement complet. Nos abonnés ne peuvent toujours pas accéder aux nombreux sites de conversation instantanée ainsi qu'à la majorité des réseaux sociaux, ont-ils déclaré dans un communiqué. Le manque à gagner causé par cette décision, ils l'évaluent à plus de 11 millions de dollars américains. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson et John Ellison. Nicolas Pineau à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, nous allons saluer Pierre Moussas à Johannesburg en Afrique du Sud et Assata Kone et Setan Zerekore en Guinée. Comme retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet voafrique.com.
cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent début de journée à l'écoute de VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson, à la une ce matin.
Barack Obama appelle à lutter contre les fausses promesses de l'extrémisme. Le président américain se défend d'être en guerre contre l'islam.
We are not at war with Islam. Al-Qaïda and ISIL and groups like it, they try to portray themselves as religious leaders. They are not religious leaders, they're terrorists.
La deuxième partie de notre émission sera largement consacrée à cette intervention du président américain. À New York, les pays arabes en désaccord ne demandent pas d'intervention militaire en Libye.
À Bujumbura, le journaliste Bob Rugurika sera libre dans quelques heures.
Le journaliste Bob Rugurika doit se présenter chaque premier lundi du mois devant le magistrat instructeur. Et la libération est aussi assortie d'une condition de ne pas sortir des frontières de la République.
Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le Journal des Sports. Le MENA du Niger éliminé devant son public, le Mali tentera de se qualifier tout à l'heure pour les demi-finales face à l'Afrique du Sud. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Suite du sommet contre la violence extrémiste ici à Washington, Barack Obama a appelé hier soir à lutter contre les fausses promesses de l'extrémisme, en particulier la propagande des groupes terroristes qui ciblent les jeunes musulmans sur Internet. Le président américain se défend d'être en guerre contre l'islam, Henri Francisque.
Barack Obama a martelé un seul message. Les djihadistes de tous bords ne représentent pas l'islam. Pire, ils le pervertissent, selon le président américain. Nous ne sommes pas en guerre contre l'islam. Al-Qaïda, État islamique et d'autres groupes sont désespérément en quête de légitimité. Ils se présentent comme des leaders religieux, de saints combattants qui défendent l'islam. Mais ils ne le sont pas. Ils sont les terroristes. Ce message a une résonance particulière après les attaques terroristes de Paris et Copenhague. Barack Obama a reconnu que les opérations militaires telles que les frappes aériennes menées depuis des mois contre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie ne peuvent être la seule réponse face à la violence extrémiste. Étant donné la complexité des défis et la nature de l'ennemi qui n'est pas une armée traditionnelle, ce travail prend du temps et nécessite de la vigilance et de la résilience. Ce sommet de Washington prend fin ce jeudi avec notamment la participation du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon.
Le Qatar a rappelé aujourd'hui son ambassadeur en Égypte pour des consultations. Cela fait suite à un différend intervenu lors d'une réunion de la Ligue arabe centrée sur les raids aériens égyptiens contre des positions de la branche libyenne du groupe État islamique. C'est ce qu'annonce l'agence officielle Qatari QNA.
Pendant ce temps, la Libye était en débat hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Al-Dahiri, a demandé la levée de l'embargo sur les armes imposées à son pays afin de mieux lutter contre les djihadistes. Il a en revanche écarté l'idée d'une intervention militaire internationale et c'est dans ce contexte que les pays arabes ont introduit un projet de résolution sur la crise libyenne à l'initiative du Caire. Morgan Guiriec.
L'Égypte, qui avait réclamé une intervention militaire étrangère en Libye, semble finalement se ranger aux réticences des pays occidentaux favorables à une solution politique. Le Caire a envoyé lundi ses avions bombarder des positions de la branche libyenne du groupe État islamique, mesure prise en représailles à la décapitation de 21 chrétiens coptes. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait alors estimé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de demander à l'ONU une résolution pour l'intervention militaire d'une coalition internationale. Mais les ardeurs égyptiennes se sont heurtées à des communiqués prudents des gouvernements occidentaux. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé que si le projet de résolution du groupe arabe à l'ONU demandait la levée des restrictions sur les armes pour le gouvernement libyen reconnu, il ne faisait pas mention d'une intervention étrangère.
On reste en Afrique du Nord, en Tunisie. 20 personnes accusées d'avoir participé à l'attaque de l'ambassade américaine de Tunis, c'était en septembre 2012. Elles ont été condamnées à des peines allant de 2 à 4 ans de prison. Claire Morin-Gibourg.
Le verdict de la Cour d'appel de Tunis est bien plus lourd que celui prononcé en mai 2013 en première instance où les accusés avaient été condamnés à 2 ans de prison avec sursis. Selon le porte-parole de la Cour, Karim Chebbi, les 20 prévenus ont cette fois été condamnés à des peines de prison ferme pour leur participation au saccage de l'ambassade et de l'école américaine en réaction à un film islamophobe diffusé sur Internet. À l'audience de mardi, seuls 6 des accusés étaient présents et tous ont nié avoir participé à la manifestation et aux heurts qui s'en étaient suivis avec la police et qui s'étaient soldés par la mort de 4 manifestants. Les autorités tunisiennes et les États-Unis avaient vivement critiqué les condamnations avec sursis des 20 accusés en première instance, si bien que le parquet avait fait appel. Il aura finalement fallu près de 2 ans pour que l'audience ait lieu mardi après de multiples reports.
Les séparatistes pro-russes ont infligé un nouveau revers à Kiev en contraignant hier son armée à abandonner la ville stratégique de Debaltseve. Le président ukrainien Petro Poroshenko demande l'envoi d'une mission policière de l'Union européenne sous mandat de l'ONU pour maintenir la paix dans l'est du pays. En demandant un contingent international de maintien de la paix, le président ukrainien semble vouloir détruire les accords de Minsk, a accusé jeudi le représentant de la Russie à l'ONU, Vitali Tchurkin, cité par l'agence de presse russe RIA Novosti.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour sur le continent africain, au Burundi, c'est aujourd'hui que Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, station partenaire de VOA Afrique, doit recouvrer la liberté. Il a bénéficié hier d'une libération contre une caution de 15 millions de francs burundais, soit environ 10 000 dollars. Il avait été arrêté le 21 janvier en rapport avec la diffusion d'un entretien avec un homme se présentant comme l'un des meurtriers des 3 religieuses italiennes assassinées en septembre dernier au nord de Bujumbura. Écoutons Maître Bosco Ngendakugayo, il est l'un des avocats du journal.
Le journaliste Bob Rugurika doit se présenter chaque premier lundi du mois devant le magistrat instructeur et la libération est aussi assortie d'une condition de ne pas sortir des frontières de la République sans l'autorisation préalable du magistrat instructeur. C'est un bon développement, le droit a été dit, du moins partiellement parce qu'on aurait pu aimer qu'il soit remis en liberté sans aucune condition. Mais quand même, la mesure qu'il vient de prendre, c'est une mesure qui tend vers la justice. La Cour a fait toutes les diligences nécessaires, moyennant nos appuis, pour que la décision lui soit signifiée immédiatement. Mais le ministère public, c'est-à-dire le magistrat instructeur, n'a pas affiché la même volonté.
Maître Bosco Ngendakugayo, il était joint à Bujumbura par Timothée de Normaï.
Les États-Unis renforcent leur soutien au Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. L'ambassadeur américain à Yaoundé, Michael Stevenhauser, a confirmé hier que Washington va appuyer en matériel l'armée camerounaise pour combattre les djihadistes. Cette semaine, 5 soldats camerounais ont ainsi perdu la vie lors d'une embuscade dans la ville de Ouaza.
À Dikoua, dans le nord-est du Nigeria, l'armée tchadienne affirme que 2 de ses soldats sont morts ainsi que 117 combattants de Boko Haram. C'est ce qu'a déclaré hier soir à la télévision nationale Brahim Seyd Mahamat, le chef d'état-major général des armées tchadiennes qui s'est rendu mercredi à Dikoua.
Les États-Unis se félicitent que l'élection présidentielle en République démocratique du Congo ait été fixée à novembre 2016. Dans un communiqué, le département d'État a salué la publication du calendrier électoral par la CENI. Washington réclame depuis des mois le respect de la Constitution, ce qui priverait en l'état Joseph Kabila de se représenter pour un 3e mandat.
On reste à Kinshasa, où la mission onusienne dans le pays prend acte de la décision du président Kabila de se passer de son appui militaire lors des opérations de désarmement des FDLR. Écoutons Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO.
Nous prenons acte de ce que le président a dit. Nous saluons d'ailleurs cet engagement ferme du président à mener ces opérations contre les FDLR. Vous savez que la question des FDLR est une question qui interpelle non seulement la RDC, mais la communauté internationale, les pays de la sous-région et aussi la MONUSCO. La résolution 2147 nous donnait ce mandat de neutraliser les groupes armés dans l'est de la RDC. Nous avions voulu, et c'était notre souhait, faire cette opération conjointe. Mais pour l'instant, voilà la situation qui se présente à nous. Nous prenons acte donc de ce que le président a dit et nous espérons qu'au cours des nombreuses discussions que nous menons à l'heure actuelle et qui sont vraiment nombreuses, on n'a jamais vraiment interrompu les contacts entre membres du gouvernement et puis hiérarchie de la MONUSCO. Nous espérons que les positions des uns et des autres vont avancer, vont évoluer pour que l'on puisse vraiment mener ensemble ces opérations.
Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO.
Michel Gbagbo, fils de l'ex-président Laurent Gbagbo, a nié hier avoir joué un rôle quelconque dans la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Il est accusé, ainsi que l'ex-première dame Simone Gbagbo, d'atteinte à la sûreté de l'État.
C'est dans ce contexte qu'à Abidjan, le gouvernement ivoirien va se doter d'une loi antiterroriste. Ce projet vise principalement à se prémunir contre la prolifération des groupes terroristes dans la sous-région tels que Acmi ou Boko Haram. Le projet de loi sera prochainement débattu à l'Assemblée nationale.
Revers pour les rebelles sud-soudanais. Leur porte-parole militaire a fait défection, se disant préoccupé par la direction du mouvement. Les précisions de Lionel Gaïma.
En annonçant hier à Nairobi la mise sur pied d'un groupe appelé Mouvement et Armée de Résistance du Soudan du Sud, le général Lul Ruai Koang a fait savoir qu'il rompait tout lien avec le leader de la rébellion sud-soudanaise, l'ancien vice-président Riek Machar. La déclaration que nous faisons aujourd'hui est que nous ne voulons plus nous battre pour une organisation qui veut continuer de combattre tout simplement parce qu'un homme à la tête veut diriger le pays par la force. Ex-porte-parole militaire et membre de la délégation rebelle au pourparlers de paix à Addis Abeba, le général Koang s'est dit persuadé que 75% de l'opposition est avec lui. Et bien que sa conférence de presse ait été organisée par l'ambassade du Soudan du Sud au Kenya, il a démenti avoir rejoint le camp gouvernemental, affirmant plutôt que son mouvement a déclaré un cessez-le-feu et attend la réponse du gouvernement.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, le monde. Aujourd'hui, nous retrouvons Nathalie Barge pour la Minute Éco.
Des milliers de personnes ont manifesté hier à Accra contre les coupures d'électricité au Ghana, rapporte l'AFP. Les délestages affectent plusieurs secteurs d'activité, dont celui du pétrole qui produit environ 100 000 barils par jour. Les manifestations vont continuer, a dit l'ex-ministre des Affaires étrangères à Kwasi Osei-Adjei, critique du gouvernement qu'il juge composé de gens incompétents. Grande déception des jeunes de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, qui espérait être embauché au grand chantier du barrage Saint-Mandéni, alors que le président de transition, Michel Cafando, visite des infrastructures économiques jusqu'à la fin de la semaine. La mise en eau du troisième plus grand barrage du pays devait se faire cette année, indique l'agence de presse africaine. La réaction de Maurice Illa, restaurateur à Bobo Dioulasso.
Concernant les barrages de Saint-Mandéni, vraiment, les jeunes burkinabés attendaient beaucoup plus. Parce que les jeunes de 17 à 25 ans, on voulait même aller travailler là-bas. Chacun se disait que c'était une opportunité pour avoir quelque chose pendant quelques années.
Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain John Kerry félicite le Rwanda pour le lancement d'une installation solaire par Gigawatt Global. C'est la première réalisation solaire dans le cadre du programme américain Africa Clean Energy Finance. La capacité de production d'électricité augmente ainsi de plus de 6%, permettant d'alimenter 15 000 foyers. Peu coûteuse, l'énergie renouvelable est une solution parfaitement adaptée aux besoins actuels, souligne M. Kerry.
Place au sport. À présent, dans cette émission, nous retrouvons Bagassi Koua. Bagassi, bonjour.
Bonjour Nicolas.
On commence par du cyclisme, la troisième étape de la tropicale Amissa Bongo au Gabon.
Oui, c'est l'équipe française Bretagne Séchée qui a réussi un doublé ce mercredi lors de cette troisième étape de la tropicale Amissa Bongo. La Britannique Danielle Maclay l'emportant au sprint devant son coéquipier biélorusse Yoheni Houtarovic et le Marocain Salahedine Mourouaouni. Le Tunisien Rafa Chichoui de Skydive, arrivé dans le peloton, conserve la tête du classement général devant le Français Giovanni Bernardo et l'Algérien Abdelkader Belmokhtar.
En football, un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se déroule au Niger.
Oui, dans le groupe A, les Nigériens à domicile ont perdu face à la Zambie 2-1 et le Nigeria a fait match nul avec la Guinée, 1-0.
À suivre tout à l'heure, à Niamey, les rencontres du groupe B, le Mali en tête jouera contre l'Afrique du Sud et le beau duel entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire.
Nicolas, on a joué hier soir en Europe la suite de la huitième de finale aller de la Ligue des Champions.
Oui, Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin du but pour guider le Real de Madrid à la victoire face à Schalke 04, 2-0. Et à l'issue d'une rencontre qu'il a totalement dominée, le FC Porto, grâce à un pénalty de Danilo en seconde période, les Portugais ont ramené de balle un match nul un partout qui leur donne un avantage en vue de la qualification pour les quarts de finale. Coup de chapeau ce matin à Isabelle Sambou, qui a été désignée par l'Union mondiale de lutte, lutteuse africaine de la décennie.
La championne sénégalaise est honorée pour une décennie de règne sans partage sur la discipline, autant au Sénégal que sur le continent. Et selon le site Afrique Info qui rapporte l'information, c'est le 21 février prochain qu'elle recevra officiellement sa distinction au cours d'une cérémonie honorifique qu'elle organisera en Casamance. Isabelle Sambou, il faut le dire, est championne du monde de bichet au wrestling. Elle a également 8 titres de championne d'Afrique, une 5e place au JO de Londres en 2012 et elle trône au sommet de la lutte sénégalaise depuis une décennie.
C'était le journal des sports avec Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. En ce jeudi matin, nous vous en avons parlé dans le journal. Discours majeur prononcé hier à Washington par Barack Obama. Le président américain s'exprimait au deuxième jour du sommet contre la violence extrémiste. Depuis la Maison-Blanche, M. Obama s'est placé sur le plan des idées pour combattre les fausses promesses des groupes terroristes qui ciblent les jeunes musulmans sur Internet. Pour une première réaction ce matin, j'ai joint le Dr Walid Fares pour se conseiller en contre-terrorisme auprès du Congrès américain. Le discours de Barack Obama devait répondre aux idéologies des groupes extrémistes.
C'est un discours obligé, comme on l'appelle ici, donc un discours qui a été attendu, un discours qui va tracer le débat à venir sur la question de ce qu'on appelle la guerre des idées, la guerre idéologique, mais surtout et au-delà du discours, il y a la question de la formation de la plus grande coalition, alliance possible entre toutes les forces du monde qui prennent la liberté, la démocratie, le pluralisme, mais aussi il y a aussi la question des sociétés civiles qui doivent être appuyées par tous les moyens politiques, économiques et sociaux.
Quand le président Obama estime que cela va prendre du temps pour combattre ces idéologies, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance ?
C'est un aveu d'impuissance, mais c'est le système qui est un peu responsable de cette crise. Nous sommes à la 14e année après le 11 septembre. Nous sommes, comme États-Unis, intervenus en Afghanistan, en Irak. Nous sommes revenus maintenant avec une coalition contre l'État islamique. C'est un peu la responsabilité de la communauté internationale, mais certainement les États-Unis ont une responsabilité tout à fait spéciale parce que l'Amérique, comme on le sait, a joué et joue encore un jeu très important dans le leadership de la campagne. Ayant dit cela, le président Obama, bien sûr, sait très bien que c'est une lutte qui va prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas une question de mois ou d'années.
Le président Obama a été critiqué par certains républicains pour ne pas avoir intitulé ce sommet « Sommet contre la violence islamiste ». Qu'en pensez-vous ?
Mais écoutez, il y a ce débat à Washington, on le connaît très bien, ce n'est plus secret. Il y a le camp du président Obama qui prône la neutralité linguistique, alors que le camp adverse, et dans lequel il y a pas seulement des républicains, mais aussi des libéraux et des démocrates, vont promouvoir l'idée que si on n'identifie pas l'idéologie par son nom, par ses valeurs et par ses principes, on ne pourra pas concevoir une stratégie pour la contrer. Et donc les deux camps ont une logique différente. L'opinion publique américaine, elle, ce qu'elle veut, c'est des résultats sur le terrain.
Le docteur Walid Fares, conseiller en contre-terrorisme auprès du Congrès américain. Autre avis ce matin sur VOA Afrique, celui de Nasser Ouedadi, ancien membre du Conseil islamique américain. Cet analyste politique mauritanien estime que Barack Obama s'est trompé d'approche et que son discours ne répond pas à la menace concrète des djihadistes. Écoutons Nasser Ouedadi.
Je ne suis pas convaincu non pas parce que je trouve qu'il est en train de débattre la mauvaise problématique. Il ne s'agit pas de savoir si l'Occident est en guerre avec l'islam ou il faudrait plutôt identifier et isoler le fait que l'intégrisme islamiste vient même du cœur du monde islamique. Globalement, les carences du discours du président Obama sont fondamentalement liées à une crise profonde qui mène l'Occident. On est en train de se chercher, on est dans une phase de réflexion où l'on n'est plus confortable avec le multiculturalisme et on n'arrive pas trop à desserrer avec les outils de pensée très postmodernes, on n'arrive pas à décerner le danger qu'une force prémoderne comme Daesh est en train de poser au monde libre. Et la réalité est justement là. C'est carrément que la modernité et le passé.
Quelles seraient les solutions ?
Personnellement, je pense que le président devrait plutôt se concentrer sur la création d'une stratégie crédible pour gagner militairement contre Daesh. Tout a été déjà dit. Il me semble que tout dernièrement, les leaders occidentaux ont développé une attitude assez fâcheuse avec leur sollicitude de devoir se placer comme les défenseurs de l'islam. On n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est des idées claires, des plans clairs et une stratégie claire pour détruire Daesh et empêcher son expansion, et surtout pour trouver des solutions réalistes au problème.
Barack Obama a mis l'accent sur la nécessité de faire appel aux leaders religieux et aux communautés, notamment dans les relations avec la police. On sait souvent qu'ici aux États-Unis, il y a beaucoup de méfiance, notamment de surveillance. Qu'est-ce que vous pensez de ce point particulier du discours du président américain ?
Il y a une partie positive du discours du président que je trouve plutôt bonne et la bienvenue. On est dans un contexte où les tensions sont fortes, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, ou en particulier en Occident. Il est bien que quelqu'un vienne pour essayer de faire baisser ces tensions. Par rapport à la recommandation du président de travailler avec, à travers les leaders religieux, je pense que encore c'est une conception naïve du problème. On l'a vu, une bonne partie des jeunes radicalisés ne sont pas passés par cette case-là de la mosquée locale. Ils ont trouvé les prêches qui l'ont radicalisé ailleurs. Et cette conception du problème est assez arriérée. On est encore en train d'évoluer dans le discours du post-11 septembre immédiat. Il me semble que le président a raté un épisode durant la décennie écoulée.
Nasser Ouedadi, analyste politique, il était joint à Boston. Retrouvez ses analyses et plus encore sur notre site internet voafrique.com.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur le film africain Timbuktu en lice pour les Oscars 2015. Des artistes comme la chanteuse Angélique Kidjo et le réalisateur Abderrahman Sissako sont internationalement reconnus. Et la question de la semaine, les artistes africains ont-ils un rôle à jouer dans l'essor et la stabilité du continent ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies discute de la crise libyenne pendant que l'État islamique accroît son emprise sur le sol libyen. Dimanche dernier, rappelez-vous, les djihadistes ont publié une vidéo montrant la décapitation de 21 coptes égyptiens. Le Caire a répondu par des frappes aériennes et veut une intervention militaire. Oui, mais voilà, les autres pays arabes ne sont pas de cet avis. Michel Joseph.
Les Libyens ont célébré cette semaine l'anniversaire de la révolution qui a renversé Muammar Kadhafi. Tripoli, dans un rare moment d'unité, affichait partout les drapeaux libyens noirs, verts et rouges. Mais ce n'est que la façade qui cache mal tout le chaos régnant dans le pays. La décapitation des 21 chrétiens égyptiens par le groupe État islamique fait craindre le pire, selon Mattia Toaldo du Conseil européen aux affaires étrangères.
Il y a un ensemble de djihadistes libyens qui ont combattu en Afghanistan, en Syrie et qui sont maintenant de retour en Libye. Il y a d'autres organisations terroristes qui ont une alliance ouverte avec certaines factions comme Ansar al-Sharia et des combattants d'Ansar al-Sharia ont déjà fait allégeance à l'État islamique.
De l'autre côté de la Méditerranée, l'Italie parle d'action militaire. Face à la détérioration de la situation en Libye, la communauté internationale doit agir avant qu'il ne soit trop tard, d'autant que l'État islamique se vante même d'avoir comme ambition de conquérir Rome, a averti le ministre italien des Affaires étrangères. Paolo Gentiloni appelle à un effort collectif global. La menace terroriste venant de la Libye est perçue comme un test pour l'Europe par rapport à la sécurisation de ses frontières.
L'Union européenne a présenté un plan avec des sanctions individuelles, le potentiel d'une mission de maintien de la paix pour essayer de préserver l'indépendance des institutions économiques libyennes vis-à-vis des différentes factions belligérantes qui veulent prendre tout l'argent et le pétrole.
Bien sûr, beaucoup craignent que l'État islamique ambitionne de faire main basse sur les richesses pétrolières libyennes pour financer son réseau de terreur. John Hamilton est un spécialiste de la Libye.
Je ne pense pas qu'il leur soit possible de le faire maintenant, mais la peur qu'ils puissent le faire est un cauchemar que l'État islamique veut bien alimenter.
L'Égypte a mené des frappes aériennes en représailles après le massacre des 21 Coptes par les djihadistes. Et les seules frappes aériennes ne suffiront pas pour bouter l'État islamique hors de Libye. Et c'est là le dilemme des Occidentaux, évaluer le risque d'une intervention étrangère face au danger d'un État en faillite au pied de l'Europe.
En République démocratique du Congo, l'opposition a décidé d'attaquer en justice les opérateurs de téléphonie mobile suite à la désactivation des numéros de téléphone de ses leaders depuis le 20 janvier dernier. Elle accuse indirectement le gouvernement qui dément toute implication. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Il s'agit des leaders de l'opposition qui ont appelé à manifester le 19 janvier dernier contre la nouvelle loi électorale alors en discussion à l'Assemblée nationale. Ces opposants affirment que depuis, leurs principaux numéros de téléphone ont été bouchés. Ils ont donc décidé un mois après de porter l'affaire devant la justice. Le député national Jean-Claude Mvuemba est le vice-président du groupe parlementaire UDPC Allié.
Nous avons consulté les services de RTL, Vodacom, Tigo, Orange. Ils ont reçu une correspondance d'un responsable en date du 20 janvier pour qu'ils puissent boucher tout le numéro des opposants que nous sommes. Et alors, à partir de ce moment, ils ont laissé le message. C'est pour cela, pour que la culture de la démocratie puisse pénétrer dans ce pays, nous, responsables de l'opposition qui ont été bouchés à travers nos téléphones à la date du 20 janvier, nous avons porté plainte contre tous les opérateurs de télécommunications, ainsi que nous allons voir comment nous pouvons aussi porter plainte contre le responsable qui a demandé qu'on puisse boucher nos numéros.
En réaction, le porte-parole du gouvernement rejette ces accusations. Selon Lambert Mende Omalanga, aucun numéro n'a été bouché sur décision gouvernementale. L'heure est plutôt à l'appel à l'identification de tous les usagers des téléphones mobiles, selon le ministre des Médias.
Les numéros de l'opposition qui auraient été bouchés, il n'y a encore aucune mesure de bouchage qui est en cours jusqu'au moment où nous parlons, parce que le gouvernement, au moment où je parlais, appelait le public congolais, pas l'opposition. Est-ce qu'il n'y a que l'opposition qui a des téléphones dans ce pays ? Appelait le public congolais. Passé 15 jours, on va boucher tous ceux qui ne se seront pas fait identifier. Identifier les gens, c'est quand même un devoir élémentaire pour un État. Parce que ça fait 5 ans que nous disons cela, il y a toujours des resquilleurs. Maintenant, on a dit, on va le faire. Passer ce délai, on va commencer à boucher. Donc, quand quelqu'un de l'opposition dit qu'on l'a bouché à cause des événements, ce n'est pas vrai, parce qu'on n'a pas commencé.
Les opérateurs de téléphonie mobile, eux, ne se sont pas encore exprimés sur le sujet. Plus préoccupés par le blackout partiel d'Internet depuis un mois, ils en réclament le rétablissement complet. Nos abonnés ne peuvent toujours pas accéder aux nombreux sites de conversation instantanée ainsi qu'à la majorité des réseaux sociaux, ont-ils déclaré dans un communiqué. Le manque à gagner causé par cette décision, ils l'évaluent à plus de 11 millions de dollars américains. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson et John Lellison. Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, nous allons saluer Pierre Moussas à Johannesburg en Afrique du Sud et Assata Kone et Sétane Zérékoré en Guinée. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet voafrique.com.